Travailleuses, travailleurs, chers amis, chers camarades, vous le savez, je pense, nous sommes en pleine période de collecte des 500 parrainages. À ce jour, le Conseil constitutionnel a enregistré 314 parrainages pour ma candidature. Alors je peux dire que c'est en bonne voie. Si les parrainages continuent d'arriver au même rythme, je serai candidate. Évidemment, je resterai une petite candidate aux yeux des médias. Parce que, mis à part les 15 derniers jours, où il y a une stricte égalité de temps de parole, les grands médias vont continuer d'organiser, vous savez, deux campagnes parallèles. Une campagne avec les grands candidats qui ont la possibilité de s'expliquer en long, en large, en travers, et puis une campagne avec les petits candidats qui, eux, n'ont droit qu'à quelques miettes d'interviews distillées par-ci, par-là. C'est en contradiction avec toutes les déclarations sur la neutralité et le pluralisme de la plupart des journalistes, mais c'est comme ça. Cela s'appelle, d'après le CSA, le principe de l'équité. La médiatisation peut être proportionnelle aux intentions de vote données dans les sondages. Autant dire que chaque chaîne peut faire à peu près ce qu'elle veut. Les multimilliardaires comme Bolloré, Bouygues, Lagardère ou Drahi, qui ont acheté des chaînes de télé et des journaux, peuvent donc se payer des campagnes électorales sur mesure. Ils peuvent décider quel candidat aura ou pas la parole, et ils ne s'en privent pas. Et je tiens quand même à dire aussi, à souligner que ce n'est pas mieux du côté des télévisions et des radios publiques. Alors oui, tout le système médiatique est bien verrouillé, mais il ne faut pas s'en étonner. Les travailleurs qui manifestent ou font grève ne sont pas mieux traités. Jamais les médias n'ont déroulé le tapis rouge à ceux qui remettaient en cause l'ordre établi. Ils protègent leur pouvoir, c'est dans l'ordre des choses. Et c'est d'ailleurs à cela que l'on vérifie qui est réellement dans le système et qui ne l'est pas. Alors, dans certains côtés, pour nous, c'est une reconnaissance. Oui, nous ne faisons pas partie du paysage. Nous ne faisons pas partie de ce personnel politique qui s'accommode de cet ordre social injuste. Et nous n'aspirons pas à en faire partie. Et si je participe à cette élection présidentielle, ce n'est pas pour jouer le jeu électoraliste. Je ne suis pas candidate pour devenir présidente de la République. Ni moi, ni Arlette Elby avant moi n'avons jamais rêvé à l'Élysée ou à Matignon. Nous ne voulons pas participer à la gestion de ce système qui est basé sur le capitalisme, c'est-à-dire sur l'exploitation et sur l'oppression. Nous voulons le renverser. Nous sommes convaincus que les travailleurs, les exploités, peuvent le faire et qu'ils peuvent imposer une gestion collective de la société à condition qu'ils en aient conscience, à condition qu'ils se battent tout simplement pour leurs intérêts. Et dans ces élections, eh bien, nous pouvons faire avancer ce combat. C'est pourquoi, dans cette élection, eh bien, j'appelle les travailleurs, les ouvriers, les chômeurs, à mettre en avant leurs intérêts contre les licenciements, contre l'augmentation du temps de travail et l'aggravation de l'exploitation, contre les bas salaires. Je les appelle à affirmer une politique de classe, un programme pour les travailleurs. Je les appelle à un vote de conscience et de combativité ouvrière. Politique parle d'une campagne où tout est possible. Et cette campagne offre en effet un spectacle assez inédit. Plusieurs candidats, sans être nouveaux en politique, se sont invités de façon assez inattendue. C'est le cas de Fillon qui a été choisi au départ pour éliminer Sarkozy. C'est aussi le cas de Hamon qui a sorti Valls. C'est aussi le cas de Macron qui, de bulle médiatique, est devenu le favori de l'élection. Et en plus de ce casting renouvelé, eh bien on a droit à des rebondissements avec désistements, ralliements, tractations d'appareils, divisions et bien sûr des mêlées judiciaires qui rajoutent, il faut le dire, pas mal de piquants. Vous avez forcément suivi le dernier rebondissement du feuilleton Fillon. Pour la première fois, peut-être, allons-nous avoir un candidat à la présidentielle mis en examen. Et vous l'avez entendu, un Fillon s'offusque qui parle d'acharnement de la justice et de complot politique. Mais qui parle toujours de tolérance zéro? Qui a condamné avant même que la justice s'en mêle les salariés d'Air France dans l'affaire de la chemise? Alors oui, là, Fillon se retrouve confronté à ses propres comportements. Hein. Il a été pris la main dans le sac. Alors ne boudons pas notre plaisir de le voir aujourd'hui patauger dans toutes ces affaires. Alors, cette campagne, avec ses coups de théâtre et ses hommes politiques mis en examen, a bien sûr de quoi surprendre, mais elle reflète quelque chose de bien plus fondamental. Elle reflète la décrépitude d'un système politique en bout de souffle. Comme dans bien d'autres pays, la crise économique a discrédité ceux qui gouvernent depuis des décennies. Et elle a eu raison du ronron de l'alternance gauche-droite. Alors oui, il est impossible de prédire qui finira président de la République et comment il construira une majorité parlementaire. Dans les mois à venir, il peut très bien y avoir une crise politique. Mais il y a une chose certaine, c'est que les affaires de la grande bourgeoisie seront bien gardées. Parce que, quelles que soient toutes les péripéties politiciennes, et quel que soit celui qui sera élu président de la République, eh bien le grand capital imposera sa politique et il trouvera le prochain président à ses pieds, parce que tous ceux qui sont susceptibles d'accéder à l'Élysée sont tous des serviteurs dévoués de la bourgeoisie et de son système. Fillon, on a quand même tendance à oublier son programme, mais il est le porte-parole par excellence du patronat. Il a repris en intégralité le programme du MEDEF, avec la suppression des 35 heures, la hausse de la TVA, la suppression de 500 000 postes de fonctionnaires. Comme Fillon, mais de façon plus honteuse, Macron veut lui aussi servir la soupe au patronat. Il s'érige en petit nouveau de la politique, plein d'idées soi-disant fraîches et originales. Mais Macron, c'est le travail du dimanche. C'est la remise des bus sur les routes, c'est le culte de l'individualisme et du chacun pour soi. Il ne jure que par ses auto-entrepreneurs, qu'ils sont en réalité que des salariés sans contrat de travail et sans protection sociale. Bien sûr, ils sont libres, oui, mais ils sont surtout libres de s'auto-exploiter pour le compte de grands groupes capitalistes. Et quel est le programme de Macron? Eh bien, c'est la continuation de la politique anti-ouvrière menée par Sarkozy, puis par Hollande, avec d'un côté la pérennisation des cadeaux au patronat, baisse de l'ISF, continuation du crédit d'impôt compétitivité emploi, et de l'autre la suppression de postes de fonctionnaires. Pour Macron, c'est 120 000 postes de supprimés. C'est aussi l'augmentation de la CSG, c'est 15 milliards de moins sur l'assurance maladie et 10 milliards de moins sur l'assurance chômage. Quant à Le Pen, eh bien elle prévoit elle aussi des suppressions d'emplois dans la fonction publique. Et elle prévoit des cadeaux au patronat. Mais elle cache son jeu en brandissant la retraite à 60 ans et 80 euros de prime pour augmenter les plus bas revenus. Et où peut-elle prendre cet argent? Eh bien, sur ce que coûterait l'immigration. Elle veut s'attaquer aux migrants qui fuient la guerre ou une dictature féroce, ou encore à des travailleurs, parfois ici depuis 5 ou 10 ans. En voulant taxer leur contrat de travail, ou en imposant qu'ils payent pour leur couverture sociale, pour l'éducation de leurs enfants, eh bien, elle s'en prend aux immigrés, c'est-à-dire à ceux qui travaillent sur les chaînes de montage, dans les entreprises de nettoyage, de gardiennage ou de surveillance. Elle s'en prend à des ouvriers, à des intérimaires, et elle brandit exactement la même politique que celle du patronat, c'est diviser les travailleurs pour régner. Le Pen, c'est notre Donald Trump française. Elle se déguise en candidate anti-système pour en prendre la tête et pour faire fructifier la fortune de ses petits copains et des plus riches. Et puis, bien sûr, c'est une démagogue qui se sert des préjugés racistes et de la xénophobie et qui les alimente pour ne pas dénoncer les véritables responsables du recul de la condition ouvrière. Alors oui, on peut dire que Le Pen est bien la dernière roue de secours du système politique de la bourgeoisie. avec Hamon, hein, qui veut faire oublier le bilan des années Hollande. Et il se singularise avec son idée de revenu universel. Il parle de 750 euros d'ici à 2022. Parce que, dit-il, il y aura de moins en moins de travail et, sous-entendu, de plus en plus de chômeurs. Et cela a suffi pour que certains reparlent de la gauche qui fait rêver. Mais le fait de devenir un assisté ne fait rêver aucun travailleur. Parce qu'un travail, c'est non seulement du salaire, mais c'est aussi de la dignité. Il n'y a que chez les bourgeois comme Bettencourt, comme Dassault, ou comme, comme chez les petits bourgeois du genre de Fillon, qu'on est fier de s'enrichir sans rien faire. Mais du côté du monde du travail, cela ne marche pas comme ça. Et puis, position significative, Hamon évoque la réaffectation et le conditionnement du CICE. Parce que, dit-il, ces 41 milliards ont été mal dépensés. Mais il ne demande pas aux entreprises qui ont empoché l'argent de rembourser ou de rendre des comptes. Ce serait pourtant logique. Quand il y a eu tromperie sur la marchandise, on demande bien à être remboursé. Eh bien, ça, non. Hamon ne l'imagine pas une seconde, parce qu'il ne veut rien imposer au patronat, parce qu'il ne veut pas le contraindre à quoi que ce soit et surtout pas à payer. Et en cela, eh bien, il est bien le dit héritier du Parti Socialiste. Alors aujourd'hui, les Macron, Fillon et Le Pen et Hamon s'opposent. Ils s'envoient des noms d'oiseaux, mais ils ont en commun le même parti pris. Ils sont convaincus que sans les capitalistes, il n'y a pas de croissance, pas de prospérité, pas d'emploi. Alors toute leur politique consiste à les amadouer, à les bichonner. Il faut toujours laisser les capitalistes faire ce qu'ils veulent, comme ils veulent, quand ils veulent. Eh bien, je suis candidate pour dire et pour affirmer exactement l'inverse. Je suis candidate pour dire que la bourgeoisie, les actionnaires et les PDG qui prétendent être la clé de voûte de l'économie ne sont rien sans nous. Imaginez-les. Imaginez les Arnaud, les Bettencourt, les Michelin, sans les salariés des hôtels et des restaurants de luxe. Imaginez-les sans leurs femmes de ménage et leurs majordomes. Si nous ne faisions plus tourner leurs bureaux et leurs usines, où feraient-ils fructifier leur fortune? Ensemble, nous faisons tourner toute la société. Nous produisons toutes les richesses, y compris les super profits qui sont encaissés par une minorité, y compris les produits de luxe qui sont réservés aux plus riches. Les progrès des transports, de la médecine, toutes les prouesses techniques, c'est nous. Nous sommes indispensables à la bonne marche de l'économie et de la société. Eh bien, il faut que nous l'affirmions et que cela soit notre boussole politique. Nous sommes mille fois plus légitimes à mettre en avant nos revendications que cette classe capitaliste qui est minoritaire et parasite. Nos intérêts, nos emplois, nos salaires, nos retraites, nos conditions de travail et de vie doivent passer avant les parachutes dorés des PDG, avant les dividendes des actionnaires et avant les fortunes de cette minorité capitaliste. Si l'on veut que le camp des travailleurs se renforce, qu'il soit visible, y compris par tous ceux qui sont écœurés de la politique, comme par ceux qui louchent du côté du Front National, eh bien il faut qu'ils se manifestent dans cette élection. Il faut que le camp des travailleurs mette en avant ses intérêts, sa politique, son programme. Et le premier point de ce programme, c'est d'éradiquer le chômage. Le patronat, et à sa suite tous les politiciens, prétendent qu'on ne peut pas garantir les emplois sans commandes assurées. Eh bien, nous, travailleurs, nous devons affirmer qu'on ne peut pas vivre sans travail et que notre vie ne peut pas dépendre des aléas de leur carnet de commandes. Nous ne sommes pas des machines que l'on branche et que l'on peut débrancher. Nous avons une vie, une famille. Les loyers, les factures tombent tous les mois. Même quand on a perdu son boulot, il faut remplir l'estomac des enfants. Alors, il faut que tout le monde ait un emploi et un salaire. La première mesure de bon sens, c'est d'interdire les licenciements et les plans de suppression d'emplois, à commencer par les entreprises qui font des bénéfices sous peine d'expropriation. Regardez le groupe Peugeot Citroën. PSA a annoncé, là, qu'il avait fait 2,15 milliards de bénéfices en 2016. Il a battu tous les records. Mais il a supprimé 17 000 emplois sur les 3 dernières années et un plan de suppression d'emplois continue de courir aujourd'hui. Sanofi réalise 7 à 8 milliards de bénéfices à peu près chaque année depuis déjà 10 ans. Il a supprimé 4 700 emplois entre 2008 et 2015 et il en supprime encore aujourd'hui. Et ces suppressions d'emplois, eh bien on les connaît dans tous les grands groupes, dans le secteur bancaire, dans le secteur des assurances, dans le secteur des médias, chez SFR. Il y en a ici, dans l'entreprise Neuhauser, c'est encore 384 licenciements. Là encore, c'est une famille bourgeoise qui s'est enrichie pendant des décennies sur le travail des ouvriers et qui les met à la porte aujourd'hui. Tous ces dirigeants d'entreprise se débrouillent toujours pour ne pas parler de licenciements. Mais c'est autant d'emplois qui disparaissent. Et au final, cela fait des dizaines de milliers de chômeurs en plus. Alors, en plus d'être des grands groupes capitalistes, eh bien, ce sont les premiers grands fabricants de chômeurs. Et la première des choses, eh bien, c'est de les stopper. Parallèlement, il faut aussi créer des millions d'emplois pour les jeunes qui arrivent sur le marché du travail, pour tous ceux qui n'ont droit depuis des années qu'à quelques heures de boulot par-ci par-là, pour tous ceux qui sont rejetés de la production parce qu'ils sont invalides ou handicapés. C'est possible, immédiatement, en imposant que le travail soit réparti entre tous. Ce serait une mesure salutaire pour l'ensemble du monde du travail, parce que dans toutes les entreprises, publiques, mais aussi dans le privé, la charge de travail a été accrue. Les horaires de travail, auxquels il faut rajouter le temps de transport, sont devenus délirants. Alors il faut soulager ceux qui ont un emploi en diminuant leur temps de travail et en créant d'autres emplois, de vrais emplois, avec un salaire complet. Il faut faire exactement l'inverse de ce que font tous les groupes capitalistes, de ce que fait Renault en ce moment, avec un nouveau plan de compétitivité qui consiste à imposer des heures supplémentaires et des samedis travaillés obligatoires pour les gens, et de renvoyer d'autres sur le carreau. Oui, si nous laissons faire le grand patronat, ce n'est pas 6 millions de chômeurs qu'on comptabilisera, mais 8, 9 ou 10 millions. Alors, il faut lui imposer des mesures contraignantes. Et regardez ce qui se passe aussi dans les services publics. Est-ce qu'il y a trop d'infirmières ou d'aides-soignantes dans les hôpitaux ? Est-ce qu'il y a trop d'enseignants dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées? Pour ce qui est des logements, il en manque 1 million accessibles à un salaire d'ouvrier. Est-ce que nous n'avons plus besoin de maçons, de peintres en bâtiment, d'ingénieurs? En réalité, il y a un grand nombre de besoins à satisfaire dans la société. Et donc, il y a autant d'emplois à créer en face. Alors oui, la répartition du travail entre tous et la réduction du temps de travail sont des objectifs nécessaires et vitaux pour toute la société. J'insiste parce que le chômage est le fléau qui pourrit la société de l'intérieur. Il aggrave la misère, il marginalise, mais aussi il pousse à l'individualisme, à la compétition entre travailleurs, et c'est aussi de là que naît la peur de l'autre et la déshumanisation de la société. Alors oui, pour nous, c'est la priorité. Il faut un travail et un salaire pour tous. À côté de cela, il faut augmenter les salaires et les pensions de retraite. Les principaux candidats susceptibles d'accéder à l'Élysée nous explique qu'il est impossible pour les entreprises d'augmenter le SMIC. Le Pen explique, je la cite, qu'elle n'a jamais proposé une augmentation du SMIC payée par les entreprises. En gros, si on veut une augmentation, il faut qu'on se la paye. Pourquoi? Parce qu'elle ne veut surtout pas créer de difficultés au patronat. Mais les difficultés des salariés, les difficultés des millions de femmes et d'hommes à se loger, à se soigner et même tout simplement à se nourrir, les privations qu'ils s'infligent parce qu'ils sont payés au lance-pierre, elles n'existent pas. Eh bien, Le Pen et tous les autres candidats s'en moquent de ces difficultés. Eh bien, ce n'est pas votre cas. Je suis candidate pour les placer au-dessus de tout et pour justement apporter des solutions à cela. Oui, nous sommes pour l'augmentation des salaires. La CGT met en avant la revendication de 1 800 euros par mois. Et il suffit de faire ses comptes. Il faut payer entre 500 et 700 euros pour le loyer ou le crédit logement. Et parfois davantage. 50 ou 100 euros par mois pour le gaz, l'électricité, l'eau. 50 ou 100 euros pour les assurances, la complémentaire santé. Il faut payer l'accès à Internet, le téléphone portable. Il faut payer les traites de la voiture, l'assurer, faire le plein. C'est encore 400 ou 500 euros minimum qui s'en vont. Et il faut encore payer les impôts sur le revenu, la taxe d'habitation. À la fin, il reste quelques euros par mois pour payer nourriture, vêtements et autres articles de consommation courante. Et avec des enfants, c'est encore plus serré. Alors, 1 800 euros net, c'est bien le minimum qu'il nous faut pour tous les salaires et les pensions. Quant aux minima sociaux, comme le RSA ou l'allocation adulte handicapé, eh bien, ils doivent être transformés en salaire. Parce que, je viens de l'expliquer, mais tout le monde doit avoir le droit d'être intégré à une activité utile dans cette société. Et ces 1 800 euros par mois ne sont qu'un rattrapage. Il y a 10 ans, le SMIC, qui est aujourd'hui à 1150 euros net, était de 1000 euros net. Et déjà, à l'époque, il avait pris du retard sur l'inflation. En 10 ans, le SMIC a donc augmenté de 15%. Et savez-vous de combien ont augmenté les salaires des PDG du CAC 40 en 10 ans? De 65%. Alors oui, il faut un minimum de 1800 euros net par mois et une augmentation de 300 euros de tous les salaires. Pour que ces hausses soient durables, eh bien, il faut qu'elles suivent les augmentations du coût de la vie, de celle des loyers, du gaz, des mutuelles, des impôts, des taxes, des péages d'autoroute. Parce qu'on nous dit qu'il n'y a plus d'inflation. Mais il suffit de comparer sa taxe d'habitation avec celle de l'année précédente, ou sa facture d'électricité avec la facture de l'année précédente, pour se rendre compte que tous les prix augmentent. En réalité, entre les salaires et les prix, il y a une course perpétuelle. Alors ce qui compte, c'est que nos salaires et nos pensions de retraite suivent le coût de la vie. La société est très riche. Il faut prendre l'argent nécessaire sur les profits des entreprises, sur les dividendes distribués aux actionnaires et aux besoins sur leur fortune, accumulée au détriment de générations de travailleurs. C'est la raison pour laquelle nous devons imposer la transparence sur les comptes des entreprises. Le grand patronat a érigé le mensonge et l'opacité en art de gouverner. Et avec le secret des affaires, eh bien, la loi est faite pour les couvrir. Prenez l'exemple du groupe Vivart. Vous savez que l'enseigne André et Naf-Naf sont à vendre, que la halle aux vêtements et la halle aux chaussures vont fermer des dizaines de magasins et que c'est 2000 emplois qui sont sur la sellette. Mais qui a tué ce groupe? Ce qui est sûr, c'est que ce ne sont pas les salaires. Un gérant de magasin y était payé 1 400 net. Et tous les autres salariés étaient autour du SMIC. Ce qui a tué ce groupe, Vivart, ce sont les fonds capitalistes, qui ont siphonné les bénéfices des différentes enseignes, qui les ont forcés à emprunter de l'argent. Auprès de qui, s'il vous plaît? Eh bien, auprès de ces mêmes fonds, à des taux d'intérêt de 11, de 12%. Alors, si les salariés du groupe Vivart avaient connu toutes ces manœuvres financières, eh bien, ils auraient pu davantage anticiper, ils auraient pu s'organiser pour les dénoncer et pour se défendre. De fait, les salariés savent tout de ce qui se passe dans les entreprises. Pas un courrier, même secret, n'échappe à l'assistante du PDG, parce qu'elle le prépare, parce qu'elle le tape et l'envoie. Collectivement, en rassemblant toutes ces informations parcellaires auxquelles les salariés ont accès, eh bien, ils peuvent avoir le contrôle sur toutes les décisions et sur l'argent qui circule dans l'entreprise. Les patrons le savent et ils le craignent. Et c'est pour cela qu'ils imposent le secret professionnel aux salariés. Eh bien, il faut revendiquer de supprimer ce secret. Cette mesure serait un objectif essentiel parce qu'elle modifierait le rapport de force entre le patronat et les travailleurs en donnant de nouvelles armes au monde du travail. Il en serait fini du chantage patronal. Il en serait fini des rumeurs, des fausses informations. Les salariés sauraient à quoi s'en tenir et ils pourraient anticiper, s'organiser face aux attaques patronales, prendre l'initiative pour imposer leurs intérêts. Et alors, on mesurerait aussi l'ampleur de ce que l'exploitation rapporte. Et on mesurerait qu'il est tout à fait possible dans tous ces grands groupes et d'augmenter les salaires et d'embaucher. Alors, voilà notre programme. Ce n'est pas, comme les autres candidats, un catalogue de promesses numérotées qui seront aussi vite bafouées qu'elles ont été inventées. C'est un programme qui découle de nos besoins. Et c'est un programme de lutte. Et oui, c'est le plus radical, parce que contrairement aux autres candidats, nous ne cherchons pas à épargner la bourgeoisie et ses profits. Contrairement aux autres, nous ne considérons pas le marché et la concurrence comme des lois de la nature, mais comme les bases d'un système établi par une minorité et qui ne fonctionne que pour une minorité. Nous sommes communistes et nous pensons que la société devrait fonctionner sur des bases collectives dans l'intérêt de tous. Autrement dit, nous n'avons aucun fil à la patte, nous pouvons nous engager dans le bras de fer avec le patronat et parce que nous sommes prêts à le combattre jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à son expropriation. Les travailleurs qui sont d'accord avec ce programme à voter pour ma candidature. Je les appelle à faire un vote de classe et de combativité. Bien sûr, voter, ce n'est pas encore agir et se battre réellement, mais le combat commence dans les têtes. On ne peut pas se lancer dans le combat sans être sûr de sa légitimité. Et on ne peut pas gagner sans être sûr de nos intérêts, sans comprendre où sont nos ennemis, nos faux amis. Tout cela se forge dans le combat des idées et dans le combat politique. Le premier tour de cette élection présidentielle nous donne l'opportunité d'avancer dans ce sens-là, alors il faut y aller. Nous n'avons pas encore de parti à opposer à la bourgeoisie, en tout cas pas de parti capable de mener le combat politique à armes égales avec les partis bourgeois. Et c'est tout le problème. Si les conditions d'existence des travailleurs reculent depuis des décennies, s'ils sont désorientés, si la confusion règne dans beaucoup de têtes, c'est qu'il n'y a plus de parti ouvrier digne de ce nom depuis longtemps. Le vote pour ma candidature permettra, le temps d'une élection, de faire apparaître les travailleurs comme une force politique, comme un camp politique. Mais il faut qu'ils se maintiennent aussi après les élections. Parce que nous n'avons pas seulement besoin d'exprimer nos intérêts à un moment donné, nous avons besoin de mener le combat tous les jours, au quotidien, dans les entreprises et en permanence, contre la politique anti-ouvrière relayée par tous les gouvernements, qu'ils soient de droite, qu'ils soient de gauche. Et cela, eh bien, c'est le rôle d'un parti. Il faut un parti qui affirme que la société est divisée en deux classes sociales, aux intérêts inconciliables, et que nous devons nous battre en ne comptant que sur nos forces pour défendre notre droit à l'existence. Un parti qui affirme que les travailleurs peuvent très bien se passer du grand capital, parce que ce sont eux qui font tout fonctionner dans la société. Alors voter, ce n'est pas encore construire ce parti, mais c'est déjà rassembler de façon ponctuelle derrière un drapeau. Et d'élection en élection, de manifestation en mouvement de grève, eh bien cela participe de la construction du parti. Alors votez et entraînez les gens autour de vous pour faire entendre le camp des travailleurs et aidez-nous à construire ce parti qui manque tant aujourd'hui à la classe ouvrière. Mélenchon a lancé le mouvement de la France insoumise pour le porter à la présidence de la République. Dans certains de ses meetings, il parle de la classe ouvrière, de son rôle indispensable et de ses droits. C'est une petite musique plaisante aux oreilles, mais il manque les paroles. Concrètement, quels sont les engagements de Mélenchon vis-à-vis des travailleurs? Eh bien, il promet l'abrogation de la loi El Khomri, le SMIC net porté à 1 300 € par mois, les vrais 35 heures. Eh bien, c'est loin, c'est très loin de ce qui est nécessaire. Et pourquoi? Parce que Mélenchon se veut responsable, parce qu'il veut proposer une politique acceptable par la classe capitaliste. C'est bien beau de dénoncer la finance, mais je vous rappelle quand même que d'autres avant lui l'ont fait. Hollande, en 2012, l'avait fait superbement, vous vous en souvenez, son discours du Bourget. Ben, le problème, c'est de dire si l'on est prêt ou pas à la renverser, la finance, c'est-à-dire à l'exproprier. Et Mélenchon se dit prêt à renverser beaucoup de choses. La 5e République, les traités européens, mais pas le pouvoir de la bourgeoisie. Pas la propriété privée de la bourgeoisie sur les moyens de production. Avec d'autres, y compris Le Pen et Dupont-Aignan, Mélenchon se veut le champion du souverainisme et de l'indépendance de la France. En renégociant ou en sortant de l'Union européenne et de l'OTAN, nous redeviendrions souverains, nous dit-il. Ce sont des mots en l'air. Les seuls souverains dans cette société, ce sont les capitalistes. C'est Michelin, le roi du caoutchouc, Bettencourt, la reine des cosmétiques, c'est Sanofi, grand maître des médicaments. Quand on est exploité, quand on appartient au monde du travail, on est souverain de rien du tout. Que les lois se décident en France, dans une 5e ou une 6e République, ou qu'elles se décident à l'échelle européenne. Quand on appartient au monde du travail, quand on est exploité, eh bien on est dépendant de cette classe capitaliste. On est dépendant de cette classe, donc, qui possède les capitaux et qui a le pouvoir de nous embaucher ou pas, le pouvoir de nous verser un salaire entier ou pas, le pouvoir de fixer nos horaires, les dates de nos congés. On est dépendant pour tout, pour le choix de son métier, de son poste de travail, pour le choix de son lieu de travail, y compris quand on est étudiant. Comment choisit-on ses études? En fonction de ses envies, de ses passions? Non, en fonction du marché du travail, c'est-à-dire en fonction des besoins patronaux. Et puis, parler de souveraineté, c'est encore une façon de faire croire qu'il y a des intérêts communs entre les travailleurs et la bourgeoisie. C'est brouiller les consciences et c'est une façon de détourner les travailleurs de leur combat de classe. Alors, laissons les mots d'ordre de souveraineté ou de la France aux partisans de la bourgeoisie et reprenons les objectifs qui ont toujours été ceux du mouvement ouvrier, l'émancipation des exploités à l'échelle de la planète. Émancipation qui sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes et pas celle d'un sauveur suprême. Mélenchon fera plus de voix que moi, parce qu'il est compatible avec le système. Parce qu'avec lui, tous ceux qui cherchent un raccourci en dehors des luttes collectives, en se raccrochant à un énième sauveur suprême, seront bien servis. Mais les voix qui se porteront sur Mélenchon ne mèneront nulle part, si ce n'est à de nouvelles désillusions. En revanche, les quelques centaines de milliers de voix qui se porteront sur ma candidature auront, elles, contribué à élever la conscience de classe. Elles auront armé politiquement les travailleurs. On ne peut pas regretter le recul de la conscience ouvrière et renoncer à affirmer sa propre conscience de classe quand on en a l'occasion politique. Oui, le monde ouvrier a besoin de repères politiques et d'une boussole. Eh bien, il faut que cette élection soit l'occasion de les mettre en avant. Et à l'inverse de Mélenchon et de son mouvement, qui n'existe que pour le porter, donc à la présidentielle, eh bien, notre campagne nous aidera à nous à avancer dans la construction du parti qui est nécessaire aux travailleurs. Alors oui, ce sera un vote constructif. Malgré toutes les trahisons subies, il faut que le mouvement ouvrier retrouve confiance en lui-même. Appartenir au monde du travail doit être un motif de fierté. Nous, ouvriers, employés, enseignants, cheminots, femmes de ménage, fonctionnaires, caissières, nous faisons tout tourner, nous produisons toutes les richesses. Alors oui, nous représenterons une force sociale. Une force sociale qui a prouvé à bien des reprises dans le passé qu'elle n'était pas vouée à subir, mais qu'elle pouvait aussi se battre. Cette année, nous fêtons le centenaire de la Révolution russe. Il y a 100 ans, les ouvriers et les paysans russes ont fait la preuve que la classe ouvrière pouvait prendre le pouvoir et s'en servir pour transformer la société par en bas, pour en créer une autre radicalement différente, basée sur la propriété collective. Une société sans patron, sans la domination de l'argent et du profit. Une société et une économie d'abord organisées pour répondre aux besoins de toute la population. Eh bien, il faut connaître cette histoire. Parce que le peu de temps que les travailleurs sont restés au pouvoir, eh bien, ils ont réalisé ce qu'aucun autre gouvernement n'a fait. Aussitôt mis en place, le pouvoir révolutionnaire a soutenu les paysans pour qu'ils se distribuent les terres. Il a organisé la production pour répondre aux besoins urgents de la population en contrôlant et en expropriant quand la bourgeoisie ne voulait pas collaborer. Il a réquisitionné les immeubles bourgeois pour que tout le monde ait un toit sur la tête. Et puis, plus important sans doute, le plus important, en tout cas, sans doute, c'est qu'il a mis fin à la participation de son pays à la boucherie que constituait la Première Guerre mondiale. Il a donné la possibilité à tous les peuples qui étaient sous la domination de la Russie de se libérer et d'être indépendants. Il a non seulement donné l'égalité des droits aux femmes, mais il les a associés à tous les niveaux du pouvoir. Quel autre gouvernement prétendument démocratique a réalisé tout cela? Et même si le stalinisme a finalement pris le dessus, en déformant et caricaturant et en trahissant les aspirations des révolutionnaires, eh bien cela ne peut pas effacer ce que les travailleurs ont réalisé. Alors oui, nous avons de quoi être fiers de notre classe sociale, de ce qu'elle a accompli dans le passé. Et il ne s'agit pas que du passé, il s'agit aussi de l'avenir. Les travailleurs sont les seuls à pouvoir impulser une société débarrassée d'exploitation, du capitalisme, de la concurrence, de ses crises et de ses guerres. Parce que le capitalisme ne pousse pas seulement les opprimés à la déchéance matérielle, il pousse toute la société à la décadence morale. Il pousse à l'indifférence, à l'isolement ou à la haine de l'autre. Et il fait le lit de la délinquance et aussi de ce fanatisme religieux. Quand ce n'est pas la barbarie des bombardements ou des terrorismes, c'est la barbarie des murs, des barbelés, que l'on oppose à des centaines de milliers de femmes et d'hommes qui fuient l'enfer. Sur cette question des frontières, regardez comment les principaux candidats sont tous d'accord. Il faut élever des frontières toujours plus hautes, toujours plus étanches. Et tous de nous répéter en boucle qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Mais dans les beaux quartiers, l'argent coule à flot. Les caprices de riches se chiffrent par centaines de millions. L'argent gaspillé dans la spéculation se compte par dizaines, par centaines de milliards. Et on ne pourrait rien faire contre la misère. La misère, ce sont eux qui la fabriquent. Ils la fabriquent en Syrie, par leurs manœuvres et par leurs bombes. Et ils la fabriquent ici, par le chômage et la précarité. Et ils se servent du drame des migrants, pour nous prêcher la résignation. Parce qu'ils nous disent qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, exactement comme ils nous expliquent qu'on ne peut pas assurer un travail à tous, ou qu'on ne peut pas espérer la retraite à 60 ans. Alors il faut avoir conscience qu'en tant qu'exploités, nous sommes tous des migrants potentiels. Alors, ce n'est pas qu'une question de solidarité, c'est aussi une question d'intérêt collectif. Oui, notre intérêt est de nous battre pour la liberté de circulation et d'installation de tous les opprimés de cette terre. Notre intérêt de classe n'est sûrement pas de nous battre entre nous pour se partager la misère, mais c'est d'imposer ensemble le contrôle sur les richesses que nous produisons et c'est de s'opposer à ce qu'elles soient confisquées par une minorité. Les travailleurs n'ont rien à gagner à la concurrence entre eux, rien à gagner à la compétition entre les peuples, rien à gagner aux guerres, qui sont le fruit de rivalités impérialistes. Les travailleurs sont de toute nationalité, de toutes les religions et de toutes les couleurs de peau, mais ils n'ont qu'une politique qui corresponde à leur intérêt, c'est celle de se libérer de l'exploitation. Alors oui, loin, très loin de l'individualisme effréné de ce capitalisme, eh bien, les travailleurs représentent la seule force sociale capable de construire une société de justice, débarrassée des classes sociales, de l'exploitation, mais aussi du nationalisme, du racisme et de la xénophobie. En va de la préservation de l'environnement comme du reste. Tous les politiciens font des promesses, et puis une fois au pouvoir, ils sont incapables d'empêcher les catastrophes qu'ils ont eux-mêmes annoncées. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que ce sont toujours les capitalistes qui ont le dernier mot. Tant que l'on n'est pas résolu à combattre cette mainmise de la classe capitaliste qui ne jure que par ses profits, on peut parler de l'économie de la mer, des énergies renouvelables, mais on parle pour ne rien dire. Oui, les problèmes écologiques illustrent l'urgence qu'il y a à supprimer la concurrence et la course au profit. Ils illustrent la nécessité d'enlever à la bourgeoisie la direction de l'économie. Ils illustrent la nécessité de planifier et de gérer collectivement les immenses moyens de production dont nous disposons. Et cela, il n'y a que les travailleurs qui peuvent le réaliser. Alors voilà aussi, pour nous, ce que représente le camp des travailleurs, c'est cette perspective-là, la transformation de la société, la perspective d'une société communiste. On nous met dans la tête que l'élection sert forcément à élire quelqu'un. Avec cette logique, forcément, il faut parier sur le tiercé de tête et je n'en fais pas partie. Mais encore une fois, choisir le prochain président qui nous portera les coups n'a aucun sens. Imaginez qu'une élection soit organisée dans votre entreprise pour élire le prochain PDG. Celui qui aura la mission de mettre en œuvre le énième plan de licenciement, le énième plan de compétitivité. Est-ce que vous le choisiriez? Eh bien, dans cette élection, c'est à peu près la même chose. On nous demande d'élire le prochain président qui fera encore reculer les retraites, qui donnera plus de liberté pour que les patrons nous exploitent, qui baissera nos conditions de vie et de travail. Il ne faut pas marcher là-dedans. L'enjeu ne doit pas être de chercher à élire l'un plutôt que l'autre, mais d'exprimer ses intérêts, ses perspectives politiques. J'appelle tous ceux qui partagent ces idées à voter pour ma candidature, sans craindre d'être minoritaire ou à contre-courant. Encore une fois, à quoi cela sert-il de voter avec la majorité quand cela conduit à élire un adversaire? Aujourd'hui, combien de travailleurs se mordent les doigts d'avoir voté pour Hollande en 2012? Et il faudrait recommencer avec un autre? Croire qu'il faut voter utile ou voter pour le moins pire, de façon à se protéger, est un leurre. Il n'y aura pas de moins pire pour le monde ouvrier s'il ne renoue pas avec les luttes collectives, s'il ne se bat pas collectivement. Quant à s'abstenir, ce n'est pas non plus une preuve de conscience ou de radicalisme. S'abstenir, c'est se soumettre. Et puis c'est déserter, parce que si nous ne défendons pas nos idées, qui fera? Personne ne mènera le combat à notre place. Parfois, on ne trouve pas le moyen de se battre, de faire grève, de manifester ou simplement de protester, parce qu'on est seul, parce que le rapport de force est trop défavorable. Mais voter, s'exprimer dans l'urne est un geste à la portée de tous, et il n'y a pas de petit combat, il n'y a pas de petit geste. Quand on est minoritaire, au contraire, la moindre voix compte et peut porter. Alors il faut entraîner le maximum de ceux qui nous entourent à joindre leur voix à la nôtre. Oui, nous sommes à contre-courant, mais quand le courant pousse dans une direction aussi réactionnaire, aussi infecte, voire barbare, quand le courant pousse à la soumission et à la résignation, eh bien oui, nous pouvons être fiers d'être à contre-courant. Je suis la candidate de lutte ouvrière. Les institutions sont faites ainsi. Il fallait un nom et mes camarades m'ont choisi pour porter cette campagne. Mais ce n'est évidemment pas une campagne individuelle, personnelle. Bien sûr, je serai en première ligne dans les médias et je me battrai comme je pourrai sur les plateaux de télé quand on m'en donnera la possibilité. Une campagne comme celle-ci, relayée au niveau national, permet justement de s'adresser à des millions de travailleurs. Et parmi eux, eh bien, il y a plusieurs centaines de milliers de femmes ou d'hommes qui partagent à un degré ou à un autre ces idées. Ma candidature leur permettra de rompre leur isolement, de se rallier à un camp, de se regrouper derrière une politique. Elle leur permettra de se conforter dans leurs convictions et c'est déjà quelque chose d'important. Mais bien plus largement, il y a aussi tous ceux qui se posent des questions, qui sont perdus. Il y a encore tous ceux qui retournent dans le panneau des illusions électoralistes. Tous ceux qui sont tellement écœurés qu'ils ne veulent plus entendre parler de politique ou de voter. Et ils sont dans nos familles, ce sont des amis, des voisins, des collègues de boulot, et c'est vous qui pouvez les toucher. En prenant le temps de la discussion, il faut essayer de les convaincre et de leur donner envie de s'exprimer en tant que travailleurs, salariés, chômeurs. Au-delà du résultat, ce qui comptera, ce sont toutes les discussions que vous aurez eues. Le simple fait d'avoir affirmé des convictions, d'avoir fait réfléchir, d'avoir apporté des réponses, d'avoir fait avancer ses idées parmi les nôtres est important, parce que nous sommes une petite organisation, mais les idées que nous portons nous dépassent, parce qu'elles sont inscrites dans les bases mêmes de la société. Elles reflètent la lutte de classe à laquelle des millions d'exploités sont confrontés, et tôt ou tard, ils auront besoin de ces idées. Alors, rien n'est à négliger, toutes les discussions seront utiles, et pour que ce soit donc une bonne campagne, pour que ce soit une campagne réussie, eh bien il faut que ce soit une campagne militante, il faut que ce soit notre campagne à tous. Pour finir, un petit effort de projection dans le futur. Au lendemain de l'élection en mai prochain, qu'est-ce qui aura changé pour nous? On ira au travail, pour ceux qui en ont un. Beaucoup d'autres iront pointer à Pôle emploi ou à l'agence d'intérim. Et on se retrouvera confrontés au même chef, au même patron, aux mêmes actionnaires invisibles mais tout puissants. On se retrouvera confrontés à son banquier, à son propriétaire, qui n'admet aucun retard de paiement, même quand on a perdu son boulot. On se retrouvera confrontés au pouvoir de l'État, qui sait très bien dérouler le tapis rouge pour les plus riches, mais qui est sans pitié pour les classes populaires. Autrement dit, rien de fondamental n'aura changé pour nous, parce que ces élections ne changeront pas notre condition d'exploité, ni cet ordre social dominé par l'argent et par la bourgeoisie. La nouveauté, c'est que le petit personnel politique aura changé, les riches auront un nouveau président de la République à leur disposition, mais pour nous, le combat continuera. Alors, dès aujourd'hui, dans cette campagne, eh bien, levons notre drapeau, celui des travailleurs et des luttes collectives. Votez et faites voter pour faire entendre le camp des travailleurs. Faites un vote de classe, un vote de conscience et de fierté ouvrière. C'est ce qui nous préparera le mieux au combat que forcément nous aurons à mener.